Dans l'optique de favoriser une culture de partage et d'apprentissage de bonnes pratiques, l'Observatoire estrien du développement des communautés présente Sonar, un balado qui explore en profondeur les dessous de l'action collective et du développement des communautés en Estrie à travers des rencontres inspirantes avec les acteurs sur le terrain. Premier épisode de l'année 2022, nous vous présentons le projet Ensemble on sème qui vise l'amélioration des conditions de vie des travailleurs agricoles temporaires étrangers en Estrie et leur inclusion à la vie collective de la région. Aujourd'hui, je rencontre Jasmin Chabot et Jacqueline Bello de l'organisme Action interculturelle qui ont mis sur pied cette initiative. Bonjour Jasmin et bonjour Jacqueline.
Bonjour, bonjour.
Pour nous aider à nous situer, est-ce que Jacqueline, vous pourriez nous dire c'est quoi la mission de votre organisme et comment vous déployez votre action en Estrie?
Oui, avec plaisir. Action interculturelle est un organisme fondé à Sherbrooke il y a plus de 30 ans. Et depuis ce temps, on travaille en équipe très fort pour bâtir une société plus inclusive. Souvent, nos actions vont toucher l'intégration sociale et professionnelle des personnes qui viennent d'autres pays. Et aussi, on va mettre en action des projets qui visent à sensibiliser la population locale à la richesse de la diversité culturelle, à valoriser la contribution de ces personnes, à faire de sorte qu'ils sont bien informés de leurs droits. Donc, on fait une variété de projets qui touche beaucoup les immigrants et les personnes qui sont issues de la diversité culturelle.
Et à un niveau plus personnel, quel est votre rapport avec la région de l'Estrie?
Bon, ça fait 17 ans que je suis au Canada, ici au Québec, à Sherbrooke. Je suis immigrante moi-même, je suis de l'Indiana et je suis une personne qui croit profondément que la diversité culturelle est une grande richesse. Mon expérience personnelle ici au Canada a été parfaitement heureuse, mais je vois très bien qu'il y a beaucoup d'autres immigrants qui ont de la difficulté, voire beaucoup de difficultés à trouver leur place. Donc, j'essaie de contribuer à créer des ponts entre communautés puis à contribuer à ma façon, à moi, de bâtir des collectivités qui sont plus accueillantes. Donc, pouvoir travailler pour Action interculturelle comme directrice régionale, c'est vraiment un grand privilège et j'apprécie beaucoup mon travail. Je l'aime beaucoup.
Merci. Et à votre tour, Jasmin Chabot, présentez-nous votre engagement en Estrie.
Je suis en Estrie depuis une dizaine d'années. J'ai créé avec Valeria, qui est ma femme, qui vient du Mexique, j'ai créé La Friche à l'or, qui est un organisme d'inclusion et comme un incubateur de culture locale. La culture, c'est ce qui lie un peu la société, ce qui fait en sorte qu'on peut se retrouver, on peut se rencontrer, on peut se comprendre, se questionner.
Puis de votre intérêt à contribuer au tissu social par le biais de la culture, comment êtes-vous devenu chargé du projet Ensemble on sème, qui est chapeauté par Action interculturelle?
J'ai approché Action interculturelle avec un projet qu'on avait mis sur place, ma femme et moi, ici à Waterville. Et de ça a découlé le projet qu'on connaît maintenant, Ensemble on sème, avec toutes les actions qu'on a pu mettre en place dans la région de MRC de Coaticook et dans les autres MRC aux alentours de Chabot.
Et puis cette initiative Ensemble on sème, c'est né de quelle observation, de quel constat sur le terrain, de quelle problématique?
Le projet a commencé à l'automne 2020, si on peut dire, avec une rencontre qu'on a faite avec des travailleurs des sapins qui habitaient notre village. Et en rencontrant les travailleurs agricoles, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de besoins au niveau de l'inclusion, au niveau de l'information. De cette réalisation-là, on a commencé à faire nos recherches. On s'est rendu compte que ces travailleurs-là avaient peu de ressources ou d'aide des organismes locaux, comme ils étaient des travailleurs temporaires. On trouvait que c'était important qu'ils puissent avoir un espace dans notre collectivité et plusieurs vivent ici plus de temps que dans leur propre pays, c'est-à-dire ils vont passer 7 à 8 mois ici. Parfois, il y en a que ça fait plus que 15 ans qu'ils travaillent ici. Et C'est ça. C'était notre volonté de pouvoir apporter un soutien à ces travailleurs essentiels.
Et maintenant, expliquez-nous un peu plus en détail les objectifs. À qui ça s'adresse, sur quel territoire, il y a combien de travailleurs qui sont concernés par vos activités?
Dans notre première deux phases de ce projet, on a rejoint 336 travailleurs sur une cinquantaine de fermes différentes dans les environs de Sherbrooke. Pour ces travailleurs-là, on a organisé plusieurs activités de loisirs, des activités sportives et culturelles. En grande ligne, notre projet vise surtout trois objectifs qui sont, en premier, informer et sensibiliser les travailleurs sur leurs droits et sur les devoirs de ce qui est de travailler ici au Québec. Le deuxième, c'est de déployer des actions pour leur intégration dans la société dans laquelle ils travaillent pour répondre un peu aux besoins universels des humains de pouvoir avoir un peu de loisirs, le contact social et de sentir valorisé pour le travail qu'ils font. Le troisième objectif, c'est de pouvoir assurer un suivi avec les travailleurs qui rencontrent des difficultés, que ce soit par rapport à des questionnements par rapport au talon de paye, par rapport à leurs impôts ou toute autre difficulté qu'ils pourraient rencontrer lors de leur séjour ici au Québec.
Merci beaucoup, Jasmin, pour ces précisions. J'aimerais maintenant m'adresser à vous, Jacqueline, concernant votre vision du développement des communautés.
C'est hyper important. Se sentir à sa place, sentir qu'on appartient quelque part, qu'on est apprécié, valorisé, ça donne un sens à la vie. Donc, nous, ce qu'on a vu avec les travailleurs agricoles, ils se sentaient vraiment invisibles. C'était comme s'ils étaient dans un autre univers. Donc, d'abord, il fallait qu'on établisse un contact humain et chaleureux avec eux et puis gagner leur confiance. Ils étaient très isolés. Bien sûr, le monde rural, c'est des fermes qui ne sont pas toujours si grandes. Donc, c'est des petites équipes. Parfois, un seul travailleur, parfois deux, trois. Donc, il fallait trouver la façon de les aider à se connaître entre eux, puis de bâtir un réseau aussi de soutien et de tisser des liens avec la population locale. Et ça, je pense qu'on peut dire qu'on a réussi haut la main, puis on a hâte de continuer.
Et est-ce que vous observez déjà des impacts de votre projet?
On voit qu'au niveau de leur autonomie, il y a eu un grand bond en avant. Comme ils ont pu découvrir plusieurs coins, plusieurs services dans la région, plusieurs endroits où ils peuvent se faire servir en espagnol, maintenant, ils prennent l'initiative de sortir. Avant, c'était vraiment travailler, rentrer à la maison, manger des nouilles instantanées, faire du dos et puis recommencer le tout. Donc, en ajoutant des informations par rapport à leur bien-être, la santé, comment se protéger de la COVID, la sécurité au travail. On leur a fourni aussi des informations fiables parce que, en plus de l'isolement, il y a la barrière de la langue qui faisait qu'ils n'avaient pas accès aux informations fiables. Donc, je trouve qu'en mettant l'emphase sur cette communication, le projet Ensemble on s'aime réussit grandement à faire de l'empowerment de ces personnes.
Vraiment. Et vous, Jasmin, est-ce que vous voulez nous parler de ces sorties culturelles que vous organisez avec les travailleurs?
Pour commencer, on a découvert un peu la région de Coaticook. On a eu une sortie au parc de la Gorge. On est allé visiter une sortie au Mont Pinacle. On a fait une sortie de pêche au parc Découverte Nature à Baldwin Mills. On a aussi été auberge Dominique Savio pour la fête des Pères. On a participé à la fête de Martinville, à la fête de la rentrée de Coaticook. Plusieurs autres activités, en fait, on a sorti plusieurs fois à Forest Alumina. On a aussi organisé au début décembre un spectacle de musique traditionnelle québécoise au pavillon des arts et cultures de Coaticook. Je suis très fier de l'équipe avec qui on a travaillé pour mettre en place ces différentes activités de loisirs. J'oubliais le tournoi de foot. Comment oublier ça? On était tellement de travailleurs, en fait, qu'on a dû diviser notre tournoi en deux, avoir un tournoi simultané à Sherbrooke et un autre à Compton.
Bon, il semble qu'il y en ait pour tous les goûts. Racontez-nous cette anecdote au sujet de la fête de Martinville et comment tout ça, ça provoque des rencontres.
Lorsqu'on a été invité au 125e anniversaire de la ville de Martinville, on a eu 30 travailleurs participants. Je pense que les travailleurs composaient à peu près un tiers des participants à la fête. Et sans arrêt, on était approchés par les gens de Martinville qui nous remerciaient d'avoir organisé des activités pour les travailleurs. Et ces personnes un peu plus âgées qui ont connu le monde agricole autrefois, et qui étaient les travailleurs du monde agricole. Ils étaient capables de comprendre, en fait, le travail que faisaient ces travailleurs-là, l'exigence physique. Et on a reçu plusieurs félicitations pour notre projet de la part de ces agriculteurs et travailleurs agricoles retraités. Et l'ambiance était vraiment, vraiment magnifique. On a vraiment hâte à l'été, que les consignes de la santé publique nous permettent à nouveau de se regrouper puis de se retrouver, parce que c'est tellement, tellement enrichissant et pour les gens d'ici et pour les travailleurs étrangers de pouvoir procéder à cet échange. Puis ça rejoint vraiment les objectifs de notre projet et les objectifs humains là, qui nous inspirent, je pense, qui sont à la base de ce projet.
Une chose qui nous intéresse dans ce podcast, c'est la manière de créer des collaborations et des partenariats. Alors, je vous lance la question, qui sont vos partenaires et comment vous travaillez ensemble?
Ben, je pense que je vais m'y lancer parce que cette collaboration est si précieuse et c'est vraiment au cœur du succès du projet. C'est clair que je suis très fière de mon équipe à Action Intellectuelle, mais on ne pourrait pas mettre sur place un tout nouveau projet où il y avait zéro structure, il n'y avait pas de base de données, il fallait vraiment qu'on travaille en synergie. Donc, on a créé un comité aviseur et puis on a au sein de ce comité le CAB, le Centre d'action bénévole de Quaticook, on a l'UPA Estri, on a la MRC de Quaticook qui est avec nous depuis le premier jour et les MRC des Sources et de Memphremagog se sont joints à nous pour la deuxième phase du projet. On a l'équipe des Comptonal, l'Écho de Compton, la Friche à l'art, donc à Waterville. On a Marie-Claude Bibeau, notre députée, puis la ministre de l'Agriculture et son équipe de comté. On a reçu également du soutien de plusieurs députés provinciaux de leur fonds discrétionnaire. Je nomme entre autres Geneviève Hébert et Gilles Bélanger. Et c'est clair que le projet n'aurait pas eu la chance de toucher toutes ces vies si on n'avait pas eu le financement. Et le financement provient du gouvernement fédéral via son programme des travailleurs étrangers temporaires. Et c'est dans le cadre d'un programme qui est administré par Immigrants Québec ici au Québec. Donc, on est un projet parmi 17 qui traverse à peu près la province. Et on essaie donc, je reviens au sujet du comité régional, on regarde comment ensemble nous pouvons trouver des façons de faire du pouce les uns sur les autres, parce qu'à la MRC de Quaticook, il y a la brigade d'accueil au CAB de Quaticook, ils essaient de mettre à disposition des vêtements, par exemple, divers à bon marché. L'Écho de Compton a décidé de faire une édition bilingue français-espagnol de son numéro de l'été où c'était vraiment sur les travailleurs étrangers temporaires. C'était tout un chef-d'œuvre. Et ce type de collaboration avec l'UPA Estrie qui nous ont même accompagnés à certaines fermes, qui nous ont partagé également de l'information très précieuse, tout ça a fait de sorte que c'est vraiment un projet régional où on sent que les gens sont très fiers, les gens sont avec nous pour le succès puis pour la poursuite. Parce que notre objectif, c'est bien entendu de pérenniser les actions. On s'en va vers une plus grande dépendance encore des travailleurs agricoles. Avec l'économie actuelle, avec la pénurie de main-d'œuvre, ces travailleurs sont extrêmement importants pour la santé économique de nos régions, et puis on veut qu'ils reviennent. Donc, ensemble, on essaie de faire des actions qui favorisent encore une fois leur bien-être, et puis leur santé, leur sécurité.
Et du côté des municipalités, quel type d'aide vous recevez de leur part?
Mais notre première collaboration était avec Wetiquette, mais aussi avec la municipalité de Waterville, qui nous a aidé à mettre en place des tables de pique-nique lorsqu'on a fait une sortie de pêche, qu'un conseiller municipal nous a trouvé des cannes à pêche pour les travailleurs, que nos liens justement avec le monde municipal nous ont permis d'avoir des kayaks en location pour la saison.
Je voudrais aussi mentionner la municipalité de Compton, parce que ça a été vraiment une municipalité très active qui a fait beaucoup pour les travailleurs. On a fait une messe bilingue, on a organisé une fiesta latine au marché du soir de Compton, on a pu utiliser le terrain de football. Donc, ils ont montré leur soutien plusieurs fois et puis on voit qu'ils veulent continuer justement à soutenir le projet.
Jasmin Chabot, expliquez-nous comment vous vous y êtes pris pour trouver ces travailleurs agricoles. Est-ce que vous saviez déjà même leur nombre au départ et à quelle ferme, chez quel producteur les contacter?
Au début, c'était la question que tout le monde posait. Combien il y a de travailleurs dans la région? Puis on dirait que personne n'avait vraiment une idée de combien de travailleurs étaient présents ni où ils étaient. Ou ceux qui avaient l'information, c'était l'information confidentielle, donc ils ne pouvaient pas nous partager. Donc, ça a été un travail assez laborieux de contacter ferme par ferme au début, de contacter par téléphone toutes les différentes exploitations agricoles, de leur proposer notre projet et d'essayer de trouver les fermes qui avaient des travailleurs. Par la suite, lorsque le projet a commencé à avoir plus l'appui de ses partenaires, dont l'UPA et aussi les médias nous ont aidés à faire connaître le projet aussi. Là, on a commencé à avoir des références, des fermiers qui nous appelaient pour demander nos services et l'UPA aussi qui nous faisait la publicité du projet et qui nous donnait des noms à contacter. Mais au tout début, ça a été quand même une de nos grandes difficultés de trouver ces travailleurs-là.
Je dirais, Jasmin, que le fait que tu es toi-même fils d'un agriculteur, ta proximité à ce monde, c'était un vrai bonus. Avant de travailler pour Action Interculturelle, j'avais travaillé dans le bureau de la députée Marie-Claude Bibeau et j'avais aussi développé beaucoup de contacts dans le monde agricole, dans la MRC de Wetiquette. Et on avait aussi, je veux vraiment le nommer, Jim Arevalo, un collègue très précieux qui était avec nous tout au début du projet, qui depuis il a commencé des études à la maîtrise, mais il avait également travaillé dans la MRC de Wetiquette. Donc au sein de l'équipe, on avait un certain réseau personnel qu'on a pu contribuer pour ne pas juste commencer de façon aléatoire, mais déjà on avait quelques indices. C'était très important de gagner la confiance non seulement des travailleurs, mais surtout des producteurs, pour qu'ils pensent pas qu'on était là pour les dénoncer ou puis pour faire des inspections à la cachette. On était là pour les soutenir dans la gestion de parfois des équipes où ils ne parlent pas la même langue, n'est-ce pas, qui ont beaucoup de paperasses à remplir. Donc, en offrant des services aux travailleurs agricoles, du coup, on aidait beaucoup les producteurs. Puis une fois qu'on avait des producteurs qui ont embarqué dans le projet, et plusieurs étaient très connus dans la région, ils ont pu faire des recommandations, et puis de bouche à oreille, le bruit du projet s'est répandu. Puis c'est clair aussi que l'écho de Compton et le numéro bilingue, ça nous a fait beaucoup de bien aussi parce que c'est lu par beaucoup de monde. Puis ça a également eu un impact sur l'ouverture de la population locale envers ces travailleurs pour qu'ils prennent conscience de leur importance et du fait qu'ils aimeraient ça, tisser des liens. Donc, on a vu que par la suite, le comportement et l'ouverture des gens du coin ont changé. Puis même les travailleurs nous disaient que les gens faisaient un effort pour leur dire bonjour ou dire hola même. Donc, ils se sentaient plus accueillis, mieux accueillis, puis plus à leur place et plus invisibles comme c'était le cas avant.
Ensemble, on s'aime. C'est un programme que vous avez mis sur pied en avril 2021, donc ça fera bientôt un an au printemps. Comment voyez-vous l'avenir?
C'est que, en fait, c'est un travail collectif qu'on doit faire et que tout le monde doit y mettre un peu du sien.
Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi, Jasmine. Il s'agit d'un effort collectif. Le gouvernement fédéral nous a aidés à démarrer le projet. On a fait cette phase pilote. On voit que ça répond à des réels besoins. On voit qu'on a une approche efficace, rassembleuse. Mais maintenant, c'est à nous, dans la région, de trouver une façon de porter ce projet pour le futur. Il faut également reconnaître que le projet apporte beaucoup à l'économie régionale. Non seulement que ces travailleurs sont indispensables pour la survie des entreprises agricoles, moi je parle plus des restaurants, des épiceries, des sites touristiques. On a fait tellement de sorties avec les travailleurs jusqu'à présent, donc ça aide à faire tourner l'économie. Donc ensemble, je suis confiant qu'on va pouvoir diversifier les sources de financement et trouver justement une façon de pérenniser le projet, parce que je suis de l'avis, puis je sais que Jasmine aussi, on est de l'avis que c'est un peu impensable de tout laisser tomber, et je pense que les employeurs commencent à compter là-dessus. Donc, on est en pleine réflexion pour des stratégies pour la prochaine phase.
Donc, il y a possiblement des producteurs qui sont à l'écoute de notre podcast, ou même de futurs partenaires potentiels pour soutenir vos initiatives, vos activités. Comment vous voyez ce qui s'en vient au niveau de l'effort à mettre dans vos opérations, dans le déploiement de vos activités?
Maintenant, on essaie de consolider ce qu'on a parce que, encore une fois, la structure, elle est informelle, mais on voudrait qu'elle soit bien établie, n'est-ce pas, pour qu'on puisse à un moment donné savoir qui est où et puis comment les joindre. Là, on utilise, par exemple, beaucoup WhatsApp. C'est important qu'on parle de ça. Cette application est extrêmement importante, est extrêmement utile pour rejoindre les travailleurs agricoles. Et on l'utilise, mais il faut également trouver une façon de l'utiliser que s'il y a des nouvelles personnes qui s'ajoutent à l'équipe, il n'y a pas des informations qui sont perdues. Maintenant, on commence à avoir 350 travailleurs, donc aussi garder ça plus organisé. Donc, on est dans la consolidation de la structure et on veut également aller de plus en plus aux environs de la MRC de Coaticook, agrandir le territoire parce qu'on a des fermes dans le Haut-Saint-François, on a des fermes dans même Frémagog, au Granit, on n'a pas encore été au Granit. On voit qu'il y a des besoins aussi dans la MRC des Sources, donc d'aller, restons en Estrie parce que c'est là où il y a vraiment la base, mais couvrir de plus en plus de fermes et de trouver des partenaires dans ces différents MRC qui vont pouvoir aider à organiser les activités ou à identifier des bénévoles. Donc, comme ça, notre toute petite équipe n'aura pas à tout porter, mais on va le faire en concertation avec toute une équipe qui est plus éclatée sur le territoire.
C'est un peu notre tradition de terminer les épisodes de Sonore avec une citation inspirante qui guide votre pratique en développement des communautés. Je vous laisse la parole pour nous partager vos leitmotivs et votre philosophie.
On récolte ce qu'on sème. Donc, c'est important aussi de faire cet effort collectif ensemble, de voir qu'est-ce qu'on va semer, puis semer quelque chose, c'est toujours porter un regard vers le futur, donc vers où est-ce qu'on s'en va ensemble comme collectivité. Donc, pour moi, vraiment, le nom du projet Ensemble, on sème, c'est ce qui guide nos actions, puis c'est ça.
Oui, bon, je dirais deux choses. D'abord, teamwork. C'est vraiment la devise qui guide tout ce que j'essaie de faire, la collaboration, puis on voit que c'est non seulement plus agréable, mais on va beaucoup plus loin.
Jasmine Chabot et Jacqueline Bello, je vous remercie infiniment d'avoir participé à Sonore et le meilleur succès pour Ensemble, on s'aime.
Merci, merci à vous, Stéphanie, pour cette opportunité de parler d'un projet qu'on aime et qui, pour nous, est très cher. Et j'espère que, oui, on va continuer à pouvoir réaliser le projet pour longtemps.
Merci beaucoup.
Vous écoutiez Sonar. L'Observatoire estrien du développement des communautés accompagne et renforce les communautés dans le développement d'une culture d'apprentissage et de la capacité d'agir collective. Vous aimez ce balado? Devenez membre de l'Observatoire pour bénéficier de plusieurs avantages.